Histoire vivante, cette semaine, la dissuasion nucléaire.
Vincent Touze, vous êtes auteur d'un important texte intitulé « Missiles et décisions » sous-titré « Castro, Kennedy, Khrouchtchev, la crise de Cuba d'octobre 1962 ». C'est grâce à Internet que j'ai pu mettre la main sur l'existence d'un pareil texte, bien que nous n'en ayons seulement qu'une partie. Il faut préciser que ça a été édité par André Versailles. Alors, un premier mot, Vincent Touze, peut-être pourrions-nous d'abord avoir cette question en introduction et peut-être également à la fin de notre entretien. D'une certaine manière, si on posait la question pourquoi la crise de Cuba, j'entends pire que la crise, n'a pas eu lieu, c'est quasiment une question impossible à laquelle on ne saurait répondre. Pour travailler sur ce sujet, vous commencez en désignant déjà que sur la nature même, sur l'appellation de la crise entre États-Unis, ex-URSS, désormais Russie et Cuba, on ne donne pas le même nom, comme si vous incliniez dès le départ que trois appellations sous-entendent trois perceptions de la crise.
Oui, tout à fait. La vision culturelle de la crise est très différente selon les trois pays. Donc, pour Cuba, c'est peut-être le plus frappant, c'est la crise d'octobre. Sous-entendu, des crises avec ce qu'on appelle le Nord à Cuba, le grand voisin nord-américain, des crises, il y en a eu très souvent. En Russie, on appelle ça la crise des Caraïbes. Et donc là, on a plutôt l'impression qu'on ne verrait presque pas Cuba. C'est donc l'idée d'une crise qui est lointaine, qui s'exprime par cette appellation. Et puis pour les États-Unis, c'est la crise des missiles de Cuba. Et là, c'est un petit caractère évident pour l'Américain, c'est-à-dire des missiles à Cuba, c'est impossible, c'est quelque chose d'inadmissible en soi presque.
Alors, missiles et décisions, puisque c'est le titre de votre travail, est-ce que vous pourriez un peu le présenter aux auditeurs de la Radio Suisse Romande, s'il vous plaît ?
Eh bien, c'est un ouvrage qui est adapté de ma thèse de doctorat. C'est donc un travail académique par lequel j'avais voulu étudier la façon dont on prend les grandes décisions dans le domaine de la politique étrangère. Et mon exemple, c'est la crise de Cuba, d'où le titre « Missiles et décisions ». Donc c'est un ouvrage qui est à la fois une contribution à l'histoire de la crise, à sa compréhension, et puis aussi un éclairage sur comment prend-on les décisions. Et j'entends, c'est expliqué dans le sous-titre, expliquer la décision de Nikita Khrouchtchev, la décision de Fidel Castro et la décision de Kennedy, évidemment avec leurs collaborateurs et proches.
D'avoir choisi cette crise de Cuba, on peut le comprendre largement en vous lisant par la richesse extrêmement importante qui existe du point de vue des archives. Est-ce que vous pourriez, d'une certaine manière, faire un peu le tour d'horizon de ce que l'on a à disposition, en vous incluant d'ailleurs également, parce que vous y avez vous-même votre part, avec des transcriptions inédites. Alors, présentez-nous à la fois les archives. On aura entendu dans un premier entretien ce qu'il en est des archives russes. Qu'en est-il des autres archives ?
Alors, peut-être commencer par le plus facile, les archives cubaines. Donc, il y a des archives à Cuba, notamment les archives d'un discours que Castro a fait en 68 devant le comité central du PC cubain, où il racontait toute l'affaire. Mais on n'a pas énormément d'archives relatives à la crise elle-même, aux conditions de la prise de décision qui ont été prises dans un petit groupe dirigeant très rapidement. Donc on peut dire que les Cubains ont des archives sur l'environnement de leurs décisions, les questions de sécurité, etc. Mais qu'en ce qui concerne la décision elle-même, il y a des documents qui sont postérieurs, des témoignages, mais très peu de choses qui sont strictement contemporains aux événements. S'agissant des États-Unis, alors là, on a une profusion extraordinaire, puisqu'on a des enregistrements que faisait Kennedy en secret, donc pendant que les décisions avaient lieu à la Maison-Blanche, il y avait un système d'enregistrement qui prenait note de tout ce qui se disait. Alors, ce n'était pas toutes les réunions nécessairement, mais on peut dire que les plus importantes, ou la plupart des plus importantes, ont été enregistrées par Kennedy.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais sur cet endroit-là particulièrement, et sachant que Kennedy précède en quelque sorte Nixon, est-ce que c'est une initiative qui est inventée au moment de la crise, ou les conversations ont déjà été enregistrées auparavant pour d'autres sujets ?
Oui, alors déjà, Kennedy n'est pas le premier qui le fait. On sait que Roosevelt l'a fait, mais de façon très, très limitée. Mais c'est le premier qui le fait sur une grande ampleur. Il y a aussi le président Johnson, comme vous le signalez, évidemment, il y a Nixon. On ne sait pas si des choses comme ça ne dureraient pas aujourd'hui aussi. Quoi qu'il en soit, Kennedy le fait depuis 1961. Il le fait de façon très sélective, donc c'est lui qui choisit de le faire ou pas de le faire. Comme je vous disais, durant la crise de Cuba, il l'a fait assez largement, mais on est loin de tout avoir, évidemment. On n'a pas ses entretiens à quelques-uns dans le bureau ovale, pas de conversation téléphonique quasiment, à part quelques rares. Donc ça donne un regard qui est privilégié, mais qu'il ne faut pas exagérer non plus. Et il peut y avoir une tentation de regarder que ce matériel qui est assez spectaculaire. Mais ce serait une erreur sur le plan méthodologique. Il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte, et notamment l'environnement politique dans lequel Kennedy prend ses décisions, que ce soit sur le plan des relations internationales de l'époque avec la guerre froide, ou les contraintes de politique intérieure qu'il rencontre et qui, évidemment, pèsent énormément sur lui.
D'un dernier mot simplement sur ça avant d'en venir aux transcriptions que vous avez réalisées, Vincent Touze. Vous comprenez le sens de la démarche d'enregistrer à la fois de manière secrète, pourquoi ? Pour l'avenir, pour les archives futures qui aujourd'hui effectivement existent ?
Oui, manifestement il y a deux idées là-dedans. D'abord, clairement je doute qu'il ait jamais envisagé de publier tout ça. Ça, c'était un instrument pour ses mémoires. On sait par ailleurs que, par exemple, Robert Kennedy, quand il a écrit son ouvrage sur la crise de Cuba, manifestement a eu accès à ces enregistrements. C'est détectable à certains détails. Et donc voilà, déjà, c'était une prise de note pour lui. Il y a un deuxième aspect. On sait par exemple, même si on n'a pas l'enregistrement, que quand il a pris la décision d'agir pour arrêter le déploiement des missiles soviétiques à Cuba, qui était quand même une décision très dramatique. Il a consulté la personne qui était le chef de l'opposition républicaine à l'époque, qui était le général Dwight Eisenhower. Et on sait qu'il a demandé au chef de la CIA qu'il a briefé sur le sujet, a recueilli son avis, il l'a fait enregistrer. Et il est évident que s'il l'a fait, là, c'était certainement pas pour aller publier ça, mais c'est qu'il se disait que ça pouvait mal tourner, toute cette affaire. Et donc, l'enregistrement était une preuve que le chef de l'opposition lui avait donné un avis dans un certain sens, qui était d'ailleurs le sien. Et donc, il y avait manifestement aussi cette idée de pouvoir avoir des preuves vis-à-vis de son opposition ou de gens qui pourraient se désolidariser de lui plus tard.
Quelle transcription avez-vous donc apporté, Vincent Touze ?
Alors, j'étais un des premiers qui ont travaillé sur ces enregistrements dans les années 90, et j'avais constitué donc des transcriptions assez riches de ces enregistrements que j'ai fait publier avec le concours du journal Le Monde à la fin des années 90. Le Monde les avait même mis largement sur Internet. Voilà, alors depuis, c'est plus trop inédit. Aux États-Unis, ça a été publié par d'autres auteurs. On en trouve des extraits sur Internet, hein, même sur YouTube. Enfin, voilà. Mais donc, j'avais été peut-être le premier, c'est certain, à faire publier des larges transcriptions de ces enregistrements, et j'étais un des premiers à travailler dessus. Voilà ce que je peux dire. Et j'avais été aussi à l'origine de la publication du discours de Fidel Castro de 1968, qui, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, est le témoignage, même s'il est postérieur à la crise, le plus précis que Castro ait fourni à ses compagnons dans les années 60 sur ce qui s'était passé pendant la crise.
Alors venons-en à votre travail à proprement parler, missiles et décisions. Vous faites en quelque sorte une confrontation comparative de trois grilles de lecture. Il y a une grille de lecture selon un modèle rationnel, vous nous expliquerez ce que vous entendez par là, le modèle bureaucratique, là on croit soupçonner quelque chose mais vous nous le préciserez également, et puis également les apports de la psychologie. Alors du rationnel au bureaucratique et à la psychologie, on a donc un moyen à spectre large de pouvoir ainsi étudier une crise comme celle des missiles de Cuba.
Tout à fait. Alors évidemment, derrière les trois appellations que vous avez données, évidemment, on voit tout de suite de quoi il peut s'agir de façon synthétique. Alors néanmoins, ce sont des modèles qui ne sont pas purs. Dedans, vous avez des aspects individuels et puis des aspects collectifs. Donc évidemment, la psychologie, par exemple, peut s'apprécier en appréciant la personnalité de Kennedy ou Castro, et puis en faisant recours aussi à des écoles historiques, culturelles, qui vont sonder la psychologie des peuples, que ce soit celle des États-Unis, du peuple russe, etc. Donc, passé ce premier point, évidemment, donc là, vous avez la grille rationnelle qui vise à expliquer les décisions de façon par des raisonnements rationnels que font les acteurs et en cherchant à les reconstituer. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde fait tous les jours, que les journalistes font aussi tous les jours. Mais il y a une deuxième approche qui est d'analyser de façon, là encore, rationnelle les choses, mais en faisant appel à des référents qui structurent les raisonnements mais qui peuvent être inconscients. Donc là, on fait appel à l'histoire, à la culture des peuples, etc. Étant entendu qu'il est bien évident que prendre des décisions par rapport à sa culture ou par rapport à des grands courants qui animent l'histoire, c'est une forme de rationalité, même si ce n'est pas toujours conscient. Voilà, donc les écoles bureaucratiques, elles, expliquent les actions par le poids des administrations, le poids des États. Il est clair que si vous êtes dans une telle ou telle armée, vous avez tel et tel type de culture, tel et tel type d'objectif. Donc ça va structurer immédiatement une décision. Vous prenez une décision parce que vous avez un plan préétabli, par exemple. Et puis, il y a aussi une autre façon d'analyser une décision dans une organisation, par les jeux d'acteurs qui peuvent se dérouler dans l'organisation donnée, par exemple l'État américain. Donc vous avez le Pentagone, le Département d'État, le président, ses conseillers, les acteurs parlementaires, et donc tout ce petit monde, par exemple washingtonien, dans le cas présent, a des façons d'agir qui lui sont propres et qui vont structurer une décision. Voilà. Et enfin, pour ce qui concerne les facteurs culturels et psychologiques plutôt, donc évidemment, il y a l'approche par la psychologie individuelle. Quand on parle de la crise de Cuba, on a trois acteurs qui ont des psychologies extrêmement riches. Fidel Castro, John Kennedy, Nikita Khrushchev sont tous des gens qui ont une histoire forte, qui ont des grands tempéraments. Et puis, l'autre aspect, c'est donc de faire appel à des facteurs qui rejoignent le modèle rationnel dans le deuxième aspect que je visais tout à l'heure, et qui est donc faire appel à la culture ou à la psychologie, mais de façon plus macro.
La crise de Cuba va d'ailleurs, pour vous suivre en sens et vous l'indiquer, non pas intéresser, mais en tout cas va faire l'objet de plus grand nombre de littérature du côté de ceux qui s'intéressent à la science politique ou encore à la psychologie, plus que du côté des historiens. Et cette crise de Cuba va également engendrer un grand nombre de recherches autour de la théorie des jeux. Est-ce que vous pourriez donner un tout petit peu plus d'arguments à tout ça également aux auditeurs ?
Oui, donc tout d'abord, il y a une très riche littérature scientifique aux États-Unis, comme tout le monde le sait. C'est aussi le cas dans les sciences sociales. Et en s'agissant de la crise de Cuba, il y a un intérêt du public et de l'Académie américaine qui est très fort, parce que c'est un événement très positif vu des États-Unis, une victoire sans guerre où les États-Unis ont joué un rôle qui peut être vu de façon très optimiste. Et Et donc, il y a un intérêt pour ce sujet qui est énorme. On peut parler de centaines et de centaines de livres qui ont été écrits sur le sujet, mais c'est vraiment dans les dernières dizaines d'années. Chaque année, quasiment, il y a de nouveaux livres sur la crise de Cuba. Là, c'était l'anniversaire l'année dernière de la crise. Donc là encore, il y a eu des tas de livres. Donc il y a vraiment des sources qui sont extrêmement riches côté américain, alors que si vous allez du côté russe, c'est plutôt une défaite, donc ça ne génère pas le même intérêt, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à Cuba, il y a un intérêt mais qui est fort, mais qui est plus relié aux autres événements de l'époque, la baie des cochons, le contexte d'affrontement entre les États-Unis et Cuba. Voilà ce qu'on peut dire sur les sources et donc sur l'aspect scientifique. Donc les gens qui se sont intéressés aux États-Unis à cette crise ne sont pas des historiens pour la plupart. Ce sont des gens qui justement s'intéressent à la décision dans une optique parfois associée au gouvernement. Donc comme vous disiez, il y a des théoriciens des jeux qui se sont intéressés à cette crise ou à des modèles proches de cette crise. Vous avez beaucoup de gens qui étudient les sciences du gouvernement et qui s'adressent souvent au gouvernement et sont recrutés par lui pour apporter leur lumière sur comment prendre la meilleure des décisions. Donc il y a un ouvrage d'ailleurs de référence qui s'appelle Essence of Decision du professeur Graham Allison de Harvard, qui est un des livres les plus brillants sur la crise de Cuba et qui l'étudie. Sous cet angle de comment on prend la meilleure décision, concrètement pour le gouvernement américain surtout.
C'est en effet un ouvrage fondateur, mais il faut peut-être préciser qu'il a donné lieu à de grands nombres d'exégèses. Est-ce qu'on a des variations d'interprétation considérables autour de la notion de décision? Est-ce que les avis et les points de vue, au travers de toute la littérature que vous avez pu étudier, vous donnent l'impression d'un panorama extrêmement vaste?
On peut dire qu'aux États-Unis, il y a une vision qui est assez homogène de la décision qu'a pris Kennedy de la suite de la crise. Donc, comme je vous disais, c'est évidemment une vision qui est très positive. Donc, on considère qu'il a pris la bonne décision. Alors, il a pu la prendre de façon un petit peu hasardeuse par certains aspects, et donc les auteurs vont essayer d'expliquer que la décision aurait pu être bien pire, et donc il y a toute une littérature qui, de façon très juste, souligne qu'on a frôlé la guerre, et que donc la décision de Kennedy n'était pas donnée, qu'on peut identifier tout un tas de facteurs qui démontrent qu'il aurait pu prendre une autre décision. Donc ces études vont plutôt rechercher des accidents, identifier des événements qui auraient pu déclencher une chaîne d'événements qui auraient pu déboucher à la guerre. Donc cette littérature, qui est souvent liée à la science des organisations, justement, identifier au sein des forces armées américaines un certain nombre de faits, d'erreurs qui auraient pu entraîner une escalade. On sait aussi qu'au sein des forces soviétiques, on avait un système d'instruction qui était assez lâche, qui aurait permis, en théorie, aux militaires soviétiques de prendre des initiatives à Cuba. Donc les spécialistes américains insistent beaucoup sur ces aspects-là. On souligne par exemple, c'est quelque chose qui est souvent lu actuellement, sur le fait que des sous-marins conventionnels qui protégeaient les cargos russes qui allaient vers Cuba étaient armés de torpilles tactiques nucléaires, et que ces sous-marins ont été attaqués de façon modérée, on dira, par la flotte américaine à coups de grenades d'exercice. C'était quand même extrêmement agressif pour les équipages des sous-marins, qui n'étaient d'ailleurs pas censés savoir qu'on leur envoyait des grenades d'exercice. Et apparemment, au moins un sous-marin envisageait de torpiller le navire qu'il attaquait. Donc voilà, l'Académie américaine insiste beaucoup sur ces aspects-là. Je dirais que du côté européen, dans mon cas personnel, j'ai préféré regarder la crise évidemment, en soulignant le caractère potentiellement belligène, enfin qui aurait pu se terminer en Troisième Guerre mondiale, mais en le regardant d'une façon beaucoup plus centrée sur une analyse historique. Donc essayer d'expliquer en quoi cette crise ne devait pas nécessairement au hasard du tempérament de Nikita Khrouchtchev ou de celui de John Kennedy, mais montrer qu'il y avait tout un tas de facteurs qui ont structuré les décisions des trois chefs d'État, qui rendaient à l'époque une crise malheureusement assez peu étonnante. C'est donc quelque chose qui avait peut-être quelque chose d'assez convenu dans le contexte, et de même que sa fin n'est pas véritablement étonnante si on veut bien regarder les rapports de force de l'époque. Évidemment, rien de tout cela pouvait être prédit, ni le fait que cette crise arrive, ni la façon dont elle se termine. Mais en tous les cas, quand on regarde le contexte de l'époque, c'est quelque chose qui est véritablement peu étonnant et peu accidentel, alors que côté américain, on va plutôt interpréter la crise en des facteurs de façon personnelle, en soulignant que la crise doit beaucoup au tempérament de Nikita Khrouchtchev ou aux décisions prises par Fidel Castro, et qu'elle a un caractère hasardeux dans son déroulement et dans sa fin. Personnellement, et je ne suis pas le seul, j'aurais tendance à avoir une analyse qui est beaucoup plus historique, avec des facteurs structurants et qui donc s'étonne moins de l'avènement de cette crise et de son dénouement.
Un dernier point, Vincent Touze, vous avez présenté ce travail dans le cadre d'une thèse, mais votre jury en face, à qui aviez-vous affaire ?
J'avais en face de moi des professeurs de sciences politiques. Et alors, nous sommes censés, dans le domaine de la science politique, brasser un spectre très large. Alors, il est vrai que je m'étais donné un sujet ambitieux, dans la mesure où j'étais obligé d'utiliser des modèles extrêmement divers, et donc à me plonger dans beaucoup de littérature. Mais en tous les cas, ce sont tous les champs qui figurent dans les modèles que je décrivais tout à l'heure, sont des modèles qui appartiennent à la science politique, quelque chose qui est parfois difficile à définir, la science politique, puisqu'elle fait appel à beaucoup de champs qui sont extérieurs à elle, comme la sociologie, l'histoire, mais ça fait partie de la science politique, justement, d'utiliser des outils qui ne sont pas de la science politique à proprement parler, mais qui sont les outils privilégiés de cette science.
Vincent Touze, on vous remercie en tout cas de cette intervention. Vous allez passer maintenant la petite minute de promo obligatoire en rappelant le titre de votre travail et l'éditeur également.
Donc, mon livre est « Missiles et décisions, Castro, Kennedy, Khrouchtchev et la crise de Cuba » d'octobre 1962, qui est donc un livre qui entend analyser cette crise, son pourquoi, son comment, et réfléchir, fournir au lecteur des clés de lecture et de réflexion sur cet événement. Et c'est publié chez André Versailles, qui est un éditeur de Bruxelles.
Merci d'être venu en parler au micro d'Histoire vivante, Vincent Touze.
Mais c'est moi qui vous remercie beaucoup.